Alors ce matin, nous sommes à la dernière série, le dernier volet de notre série sur l'Église. Vous vous rappelez, nous avons parti de Matthieu 16, et alors que le Seigneur a dit « Je bâtirai mon Église ». Et aujourd'hui, nous entamons le sixième volet, le dernier volet de la série de l'Église. Et le sixième volet fait partie un peu de ce qu'on a vu la semaine passée, la croissance de l'Église. Alors, je pourrais dire que ce matin, c'est la croissance de l'Église, deuxième partie. Nous avons vu la semaine dernière la clé pour la croissance d'une Église. Si vous étiez attentif la semaine passée, on a parlé de quatre choses. On a parlé de, premièrement, d'un message transcendant. On a parlé d'une congrégation régénérée, nous avons parlé aussi de persévérance et de pureté dans l'Église. Alors, la semaine passée, la clé pour une croissance de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons voir les étapes de cette croissance. Et nous allons tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Verset 4. Comme vous le voyez, je ne suis pas préparé, j'ai mon nouveau lutrin. Alors, on tourne en 1 Corinthiens. Chapitre 3, verset 4. Alors, où il est dit que, verset 4, « Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ?» Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Alors, la croissance de l'Église, deuxième partie, les étapes d'une croissance. Comment se fait la croissance de l'Église? Les étapes d'une bonne croissance. Et j'aimerais voir avec vous le contexte. C'est que Paul... Dans le texte que nous avons lu, Paul et Apollos sont des anciens de l'Église. Et lorsqu'on dit « quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », c'est qu'il y a des gens dans l'Église qui disaient « ben écoutez, moi j'ai été baptisé par Paul, moi j'ai été baptisé par Apollos, moi j'ai reçu les enseignements de Paul, j'ai reçu des enseignements d'Apollos. » Alors, il y a comme une chicane en partant là sur de qu'est-ce qui se passe à l'Église. Les gens aiment tout le temps ça, se référer à quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qu'on voit vraiment un leader dans l'Église. Et dans ce temps-là, il y avait des gens et on se chicanait pour savoir qui était de Paul, qui était d'Apollos. Mais Paul dit... Il dit, ce n'est pas, on ne bâtit pas autour d'un serviteur. On n'élève aucun monument pour un serviteur. Parce que de toute façon, nous sommes tous des serviteurs dans l'Église. Mais les gens aiment ça, on aime ça, idolâtrer des gens. Le monde honore, essaie d'immortaliser des grands hommes. On veut voir, on veut aduler comme le Elvis Presley du rock, le Marlon Brando du cinéma. On aime ça avoir des vedettes, on aime ça avoir des gens à qui on peut s'identifier. On peut estimer des gens, mais il ne faut pas les vénérer. Mais aujourd'hui, les gens vont idolâtrer des vedettes. Et dans ce temps-là, c'était la même affaire. Quoique il n'y avait pas autant de technologie, quoique c'était quelque chose de très... comment je pourrais dire ça? On pouvait pas voir qui était un grand homme, alors les gens vivaient dans leur contexte. Mais dans l'Église, on voit qu'il y a des gens qui étaient pour Paul, les gens étaient pour Apollos. Alors, la croissance d'une Église, ce qu'on veut dire dans le texte, c'est la croissance d'une Église, c'est un travail d'équipe. Le verset 9, plus tard, nous dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu a décidé de travailler avec l'homme pour l'œuvre chrétienne. » C'est la décision de Dieu de travailler avec l'homme et la femme. Il nous inclut dans le ministère. Dieu aurait pu prendre des anges. Il ne l'a pas fait. De toute façon, la Bible dit que les anges sont des aides. Ce sont aussi des spectateurs. Les anges sont des spectateurs. Puis ils n'ont pas toute la connaissance voulue, puis ils n'ont pas toute la connaissance de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Jésus-Christ n'est pas pour les anges. Dieu a choisi l'homme et la femme. Pourquoi? Parce qu'il leur a donné un don, il leur a donné des aptitudes pour servir dans l'Église. Alors, en partant, dans le texte, qu'est-ce qui est très important, c'est quand l'un dit « moi, je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », tout de suite en partant, Paul dit « non, 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 c'est un travail d'équipe. Vous êtes tous des serviteurs de Dieu. » Mais, à partir du verset 6, c'est ça qui est intéressant. Paul dit « j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » J'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Et Dieu utilise l'image du jardinage. On va essayer de voir ça ce matin, le jardin, avec la croissance de l'Église. Moi, je ne suis pas tellement jardin, mais je suis comme vous, j'apprends. Ma mère est plus jardin, mais moi, je suis pas vraiment un... Je sais que... Quand on parle de « j'ai planté, on a arrosé, Dieu a fait croître », alors, il faut préparer le terrain. Avant de planter, avant d'arroser, avant que Dieu, quand Dieu a fait croître, il faut préparer le terrain, l'endroit où on va cultiver. Alors, avant qu'il y ait une croissance de l'Église, avant de planter quelque chose, il faut préparer le terrain comme on prépare un potager. Qu'est-ce qu'on fait quand on prépare un potager? On enlève les mauvaises herbes, on prépare la terre, on irrigue la terre, on met du compost. Grosso modo, c'est à peu près ça qu'on fait dans un jardin. On avait un jardin, nous autres, au chalet quand j'étais plus jeune. Alors, c'est ça qu'on faisait. On préparait la terre avant de faire le jardin. Alors, il faut préparer le terrain. Alors, avant de faire quelque chose dans l'Église, il y a quelque chose qui s'est fait avant. On a préparé, on a prié, on a fait des démarches pour la ville, on a fait des démarches pour la communauté, on a demandé au Seigneur si c'était la bonne place. Vous comprenez? C'est la même chose. Toutes les églises ailleurs, c'est pas des églises qui se sont installées comme cela. Il y a un travail qui s'est fait avant d'implanter l'Église. Alors, il y a une préparation qui se fait quand il y a une Église. Je suis certain que l'Église chrétienne Alliance missionnaire de Lévis, de Serge Roy, qu'il y a eu une préparation qui s'est faite depuis des années. Puis aujourd'hui, on voit les résultats. Alors, il y a une préparation. Mais les trois étapes de la croissance d'une Église, quand Paul dit « j'ai planté », il faut planter. Dans un jardin, si on veut avoir des patates, il faut mettre des graines pour avoir des patates. Si on veut avoir des carottes, si on veut avoir des cocombes, faut avoir la bonne semence dans un jardin. C'est la même chose dans une église. Puis la semence dans une église, c'est la parole de Dieu. Luc 8, chapitre 11. Jésus dit, voici ce qui signifie cette parabole, la semence, c'est la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, il dit à son élève, il dit, prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu le dimanche. Prêche la parole de Dieu la semaine. Annonce l'Évangile. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a une vie puis une force. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, c'est une semence. Et ça va être une semence dans la vie des gens d'Église. La joie, la paix, l'amour, la patience. La Bible n'a pas été donnée pour augmenter seulement notre connaissance, mais la Bible a été donnée pour changer nos vies. Alors, c'est bien important que la parole de Dieu soit prêchée et que les bons enseignements soient prêchés parce que c'est une semence. À un moment donné, il y a un pasteur qui avait fini ses 25 années dans une église, puis il est en train de ramasser ses affaires dans le presbytère, puis il voit un bol, quand même un bol, puis il regarde le bout en dessous de la table, il regarde le bol, il y avait 5 œufs, puis 1 000 $. Alors, il appelle sa femme, il dit, chérie, je ne comprends pas, il dit, j'ai vu un bol dans le presbytère, je suis en train de faire le ménage, il y a 5 œufs, puis 1 000 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, elle dit, écoute, elle dit, à chaque fois que tu faisais un sermon, que tu prêchais la parole de Dieu, à chaque fois que le sermon était mauvais, elle dit, je mettais un œuf dans le bol. Alors, regarde le bol, elle dit, ouais, 5 œufs, 5 sermons, sur le nombre de sermons que j'ai fait depuis 25 ans, j'ai dit, c'est bon. Il était là, puis il disait, ouais, c'est bon ça. Puis il dit, le 1 000 $. Ben, le 1 000 $, elle dit, à chaque fois que je ramassais qu'il y avait 12 œufs, elle dit, je les vendais. Alors, il faut bien prêcher la parole de Dieu, il faut bien amener le message, parce que la parole de Dieu, c'est une semence. Puis si la parole de Dieu est mal prêchée, c'est quand même une semence. Et c'est une semence, c'est pas une bonne semence. Alors, ce qu'on dit, c'est très important dans ce qu'on fait dans le sermon qu'on va apporter. Ésaïe, chapitre 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, la parole de Dieu, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Il y a une puissance. Il y a une puissance d'une vie spirituelle dans la parole de Dieu. Comme il y a une puissance dans la vie d'une plante. Puis la plante, la puissance dans la plante, qu'est-ce qui fait qu'il y a une plante? Bien, il y a une semence. Alors, la parole de Dieu, c'est l'enveloppe, comme si on dirait, c'est l'enveloppe de la graine, puis la graine, c'est Jésus. Jésus a dit aux pharisiens, « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. » Alors, il y a seulement Dieu qui crée une semence qui se reproduit. Mais elle doit être plantée. Puis, il faut la planter avec la parole de Dieu. Par contre, quand on plante, la Bible dit qu'il y a 4 sols quand on plante. Vous vous rappelez la parabole du semeur? Il y a 4 types de sols. Puis, il y a 4 types de personnes quand on enseigne, quand on prêche la parole de Dieu. Le premier sol qu'on va avoir, vous savez, quand on sème, on peut avoir un sol qui est dur. Puis on peut représenter ça comme des gens qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne se préoccupent pas des choses de Dieu. Que l'Évangile, c'est pas pour eux autres. C'est dans Jean chapitre 8, verset 37, c'est écrit « Ma parole ne pénètre pas en vous ». On appelle ça un sol qui est dur, des gens qui sont durs, des gens qui veulent pas que... Ils veulent pas se laisser toucher par la parole de Dieu. Souvent, ils vont dire que même l'Évangile, c'est une pure folie. Alors, un sol qui est dur. Deuxième sol qu'on peut avoir, c'est un sol qui est rocailleux. Des graines qui vont descendre dans un sol rocailleux, mais qui ont de la misère. Ils vont quand même... ils vont pousser, mais ils vont avoir de la difficulté. C'est sur le coup, il y a une racine, mais après ça, il n'y a plus de racine. Ça veut dire que c'est des gens qui entendent avec joie la parole de Dieu, qui la reçoivent rapidement, qui ont un enthousiasme émotionnel, mais pour un temps seulement. Troisième sol, vous avez le sol qui est un sol épineux. Des gens qui sont préoccupés par les soucis, par la vie, les richesses... les divertissements, le sport, sont pas intéressés. C'est quand tu viens pour prêcher la parole, c'est comme un sol qui est épineux, c'est que tu t'envoies des graines, mais c'est comme si la graine se brise un peu là, parce que le sol est pas bon. C'est comme des gens qui ont toutes sortes de préoccupations, puis ne se préoccupent pas justement de la parole de Dieu. Alors on appelle ça un sol épineux. Quatrième sol qu'on a, c'est un bon sol. C'est un sol que tu vas planter, puis il va y avoir quelque chose qui va sortir. Il va y avoir une petite racine, il va y avoir une racine, après ça, il va y avoir, quelque chose, un légume ou quelque chose d'autre. Des gens qui attendent la parole de Dieu avec un cœur honnête, des gens qui produisent du fruit. Alors, c'est pour ça que quand on prêche la parole de Dieu, quand on parle de l'Évangile, c'est que il y a quatre types de sol. On plante, mais c'est pas tout le temps évident. C'est pas notre faute. Il y a des gens qui veulent pas la recevoir, qui sont pas intéressés. Il y a des gens qui ne fréquentent pas l'Assemblée. Chaque individu est un sol différent. Pourtant, Osée a dit, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel. On enseigne la Bible, on prêche la parole de Dieu, on plante quelque chose, mais on a différents soldes. Alors, première chose, j'ai planté. Pour la croissance de l'Église. J'ai planté quelque chose. Deuxième point, Apollos a arrosé. Il faut arroser dans un jardin. Si on n'arrose pas, on va avoir un problème. Dans Luc chapitre 8, verset 6, c'est écrit qu'une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Alors, s'il n'y a pas d'eau, la graine va mourir. Vous savez, il y a quelques mois, j'étais allé à Las Vegas. Las Vegas, c'est en plein désert. C'est l'endroit le plus sec aux États-Unis. Pourtant, c'est l'endroit qui est très sec. C'est l'endroit qui n'a presque pas de pluie qui tombe par année. Pourtant, il y a une consommation par habitant de 1000 litres d'eau par jour. Il y a beaucoup d'eau à Las Vegas, contrairement à ce qu'on peut penser. Pourquoi? Parce que les gens consomment deux fois plus. On a besoin de deux fois plus, beaucoup plus d'eau. Pourquoi? Parce que, à cause de l'agriculture. On doit faire de l'agriculture pour nourrir toute la population de Las Vegas et tous les gens les touristes, étant donné que c'est la ville la plus visitée aux États-Unis. Alors, on a fait un système d'agriculture, on a fait un système de jardin public, de parc. Puis même si on dit aux gens de ne pas arroser, mais la ville a besoin d'eau pour justement faire vivre la ville, vivre les habitants qui sont là. Alors, la ville prend beaucoup d'eau. Puis l'eau vient du lac Mead à 48 km de Vegas. C'est un des plus grands réservoirs des États-Unis. Mais présentement, le lac est en train de se vider. Puis ils vont être obligés de faire un oléoduc d'au-dessus de 2 à 3 milliards de dollars pour aller chercher de l'eau à l'extérieur, puis plus loin sur la côte ouest. Alors, Las Vegas, c'est un exemple. Plein désert, on a besoin d'eau. Alors, le jardin, c'est comme ça, il y a besoin d'eau. S'il n'y a pas d'eau, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut représenter par l'eau? L'eau, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Le Saint-Esprit est souvent représenté par une eau de vie. Le Saint-Esprit nous a été donné. Alors, pour faire justement avancer l'œuvre du Seigneur, on a besoin du Saint-Esprit. Comme on arrose le jardin, on doit arroser l'Église. Le Saint-Esprit est là. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. En même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi faire des ministères dans l'Église. On peut faire de la prière, on peut faire du counseling, on peut faire, il y a de la fraternité, de l'enseignement, le culte le dimanche, les œuvres. On doit arroser ce qu'on fait. On a planté la parole de Dieu, on a prêché la parole de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, on est arrosé, l'Église est arrosée. Pas trop arrosé, le jardin, il ne faut pas que ça soit trop arrosé. Un jardin, c'est certain qu'il y a une façon d'arroser. C'est la même chose dans l'Église, il ne faut pas avoir trop de choses non plus. Par contre, dans un jardin, s'il n'y a pas assez d'eau, le jardin va devenir sec. C'est la même chose que l'Église. L'Église, s'il n'y a rien qui est fait, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, s'il n'y a rien qui se fait, l'Église va mourir. Paul écrit et dit, « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. » Pourquoi? Parce que tantôt, on a dit, « Moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Paul. » Il dit non. « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Aucune espèce d'importance entre le pasteur, l'intercesseur, la personne à l'offrande, tous les ouvriers de Dieu sont égaux dans l'Église. » Il dit plus loin, « Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Alors, chacun recevra sa propre récompense. Tout le monde travaille ensemble, mais la récompense, c'est chacun. C'est pour chacun. Vous savez, à New York, les chauffeurs de taxi new-yorkais, ça conduit très, très vite. Pour ceux et celles qui sont allés à New York, les chauffeurs de taxi, là, c'est ça. Ils sont tout le temps... Il faut tout le temps qu'il arrive le plus vite possible. Alors, c'est un pasteur puis un chauffeur de taxi comme ça, un pasteur puis un chauffeur de taxi new-yorkais qui arrive au ciel. Alors, le pasteur reçoit une petite maison, puis le chauffeur de taxi reçoit un château. Puis le pasteur demande au Seigneur, « Voyons donc, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, moi, j'étais pasteur, puis... J'ai une petite maison, il me semble que j'avais des grosses responsabilités, puis le chauffeur de taxi, lui, il a eu un château. Alors, le Seigneur lui dit, toi, quand tu prêchais, les gens d'église dormaient. Mais lui, quand il conduisait, les gens priaient. Alors, ça ne dépend pas du pasteur, ça ne dépend pas du... Tous sont égaux, mais chacun va avoir une récompense. Jérémie a été un des prophètes de Dieu les plus fidèles et les plus consacrés. Pourtant, son ministère a eu peu de résultats. Jérémie a prêché, Jérémie a prophétisé et Jérémie a pleuré sur le peuple d'Israël et il n'y a pas grand-chose qui s'est produit. Par contre, Jonas, lui qui était rebelle, qui avait un esprit borné, qui était bougonneux, mauvais serviteur, lui, il a gagné une ville au complet pour un court temps de prédication. Plus grand réveil dans la Bible, c'est Jonas, avec un ministre qui était vraiment pas spirituel. Alors, c'est comme ça, on peut pas... Alors, tous les ouvriers sont égaux, tous les ouvriers font un travail, font chacun leur travail, et on peut pas se fier sur... on peut faire un travail extraordinaire et avoir peu de résultats, bon, on peut faire un petit travail et avoir beaucoup de résultats. Troisième point, on a dit, moi j'ai planté, Paul a dit j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. C'est Dieu qui fait croître l'Église. Il n'y a personne qui peut donner la vie et faire croître. Cela appartient au Seigneur. Aucun homme, même le meilleur des agriculteurs, ne peut communiquer la vie ou la croissance à une plante. On revient dans notre jardin. On peut faire un jardin, on peut être le meilleur jardinier, mais on ne peut pas aller plus loin. C'est la nature qui va faire que les plantes, les légumes vont pousser. Souvent, on dit, j'ai fait ci, j'ai laissé mes vieilles habitudes, je suis dans l'église, j'ai parti à un ministère, j'ai fait cela, mais non. C'est Dieu qui fait tout. Le plus qu'un homme ou une femme peut faire dans l'église, c'est de semer et d'arroser. On ne peut pas faire croître. C'est Dieu qui donne la vie aux plantes, c'est Dieu qui donne la vie aux animaux, aux hommes, c'est lui qui la reprend. Ça, c'est Dieu. La vie spirituelle, c'est Dieu qui la donne. La croissance par son esprit. Il n'y a personne qui peut aller dans un jardin puis dire aux légumes, puis s'en aller à côté des légumes, puis dire, « Ah, let's go, poussez, pour arriver à la récolte, puis on va avoir des légumes. » Non, c'est impossible. Tu ne peux pas aller voir le jardin et parler aux légumes et leur dire de pousser. Alors, on ne peut pas convaincre les gens. On ne peut pas aller voir les gens et dire, ben, écoutez, là, venez à l'église puis soyez spirituels. Puis on ne peut pas. On ne peut pas faire ça. C'est l'Esprit de Dieu qui convaincra de péché, de justice et de jugement. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où il est question de convaincre et d'inciter les gens. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens allaient au tabernacle, ils allaient au temple. Les Juifs allaient à la synagogue, les gens suivaient Jésus. Les gens suivaient Jésus naturellement. Viens demain à l'église, là. Je t'attends, là. Viens. Non, c'est forcé. On force pas les gens comme ça. Puis là, t'es obligé de faire ça dans l'église, là. Puis ça. Non, c'est Dieu. C'est des gens qui ne veulent pas venir à l'église, qui ne viennent pas. C'est Dieu qui fait croître. Par contre, dans Marc chapitre 6, verset 11, c'est écrit que « Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds. » Ici, c'est pas mal, les secouer la neige de vos pieds. Mais... « Afin que cela leur serve de témoignage. » C'est la Bible dit qu'il y a des gens qui veulent pas entendre. Alors, la croissance d'une église, c'est naturel. C'est pas avec des gens de d'autres assemblées, comme on voit, comme on peut voir. C'est sûr que Dieu travaille avec nous autres. Nous sommes ouvriers avec Dieu, nous sommes à l'œuvre, mais c'est Dieu qui fait croître l'église. Puis, vous savez, quand on a un jardin, entre le moment où l'on plante puis le moment où il y a une croissance, il y a des difficultés aussi. Nous autres, quand on faisait un jardin, on commençait à faire le... Je disais, nous autres, peut-être ma mère faisait un jardin dans le... On l'aidait, c'est sûr, là. C'est ma mère qui faisait son jardin. Puis t'as un grand jardin, t'as quand même assez grand, là. Puis, il peut y avoir de la sécheresse qui arrive, il peut y avoir des insectes, il peut y avoir des animaux qui viennent faire des mauvais coups dans le jardin. Alors, c'est la même chose dans l'Église. Pendant une croissance de l'Église, il y a des choses qui arrivent. Il y a des divisions, il y a des départs, il y a des changements de pasteurs, il y a des problèmes. Il y a toutes sortes qui arrivent. Mais il faut être patient. Un jour, il va y avoir quelque chose. Un jour, on va avoir une récolte. Mais il y a des difficultés, comme on a vécu il y a quelques années. Alors, c'est la même chose. Puis dans un jardin, c'est la même affaire. Il y a des choses qui peuvent arriver. C'est certain que la récolte va dépendre si nous avons bien semé, si on a bien arrosé. Mais c'est naturel. La croissance est naturelle. C'est le même principe qu'une cellule. Personne témoigne à une autre, l'invite à l'église. La personne va témoigner à une autre personne. Une autre personne va témoigner à une autre personne. Il y a des gens qui vont venir, exemple, à une réunion de prière. Il y a une quatrième, cinquième personne qui va venir, une sixième. Il y a une multiplication. L'église, c'est une multiplication, comme une cellule. C'est comme la même chose des graines qui ont donné naissance aux légumes. Un arbre va faire pousser un autre arbre. Ce sont des cellules qui se reproduisent. Mais ça prend de la patience. Il y a plusieurs années, on a pris une semence de lotus, puis on a fait germer, on a pris cette semence-là, puis on l'a mis dans une tourbière, puis on a fait semer, on a semé afin qu'on ait un petit lotus. Puis ça a pris une centaine d'années. Mais nous autres, on est tellement habitués à avoir les choses vite, on va avoir tout comme du pop-corn. Puis on veut tout avoir le crédit, on veut tout que ce soit nous autres qui gèrent, puis on veut avoir le crédit du travail. Mais savez-vous que un champ, on dit un acre de terrain, où il y a des épis de blé d'Inde. Un grand champ qui a des épis de blé d'Inde, ça prend, jusqu'à temps qu'on puisse faire la récolte, ça prend 4 millions de livres d'eau. Ça prend 6800 livres d'oxygène. Ça prend 5200 livres de carbone, 160 livres de nitrogène, 125 livres de potassium et 75 livres de sulfure. Puis ça prend de la pluie, puis ça prend du soleil au bon moment. Puis on dit que malgré le nombre d'heures de travail du fermier, les efforts du fermier sont attribués seulement pour 5% de l'œuvre de la récolte. Seulement 5%. Alors, si on pense que c'est avec l'effort de nos mains que nous allons avoir la récolte, c'est seulement par la grâce de Dieu qu'il y a une récolte. Puis il y a des bonnes, puis il y a des mauvaises récoltes, tout dépendant des années. Alors, l'Église, c'est la même chose. On peut avoir une récolte, mais il y a des années, ça va moins bien, il y a d'autres années, ça va mieux. Puis on se reprend l'année d'après. En 1831, il y a des missionnaires qui ont commencé une œuvre en Thaïlande. En 1831, ils ont eu leur premier converti en 1859. Ils ont travaillé tout ce temps-là, ils ont planté, ils ont arrosé. Ils ont eu la récolte plusieurs années plus tard. Une église en Californie, au bout de 15 ans, 5000 convertis. 5000 gens qui fréquentent l'église. Alors, voyez-vous que les récoltes sont vraiment différentes d'un endroit à l'autre. Alors, on ne peut pas dire que chaque récolte est pareille. C'est jamais pareil. Alors, pour terminer, c'est à nous à travailler avec Dieu. C'est à nous à planter. C'est à nous à arroser. Puis le temps de la récolte appartient à Dieu. Des fois, c'est pas facile de dire, puis de voir que on est ici le dimanche matin, puis avec les chaises, on dit, voyons, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on fait un matin? Là, tu dis, hey, combien t'avais de personnes? 1, 3, 6, non, on était 10. Ah, ouais, ben c'est quand même bien, vous commencez. Ouais, mais c'était tout du monde de ma famille. Mais ça, on appelle ça c'est planté. C'est seulement planté. On plante quelque chose, puis j'ai planté, on a vu la direction du centre communautaire ici qui connaissait pas, qui avait aucune idée que c'était quoi une église. Alors on s'établit tranquillement. Alors c'est ça. Dieu, la première chose dans Job, quand Satan arrive devant Dieu, vous savez, quand Satan arrive devant Dieu, Dieu lui a permis de venir. Puis vous savez que quand on arrive devant un roi, on ne peut pas arriver devant un roi puis commencer à parler. Hein? Vous marquerez dans le livre de Job que c'est Dieu qui commence. Dieu lui parle. Lui n'a pas le droit de parler. Première chose qu'il lui dit, « As-tu vu mon serviteur Job? » Il n'a pas dit, « As-tu vu les gens qui se sont retrouvés à l'entour de Job? » Parce que Job avait une clique, Job avait parce que Job n'était pas un Israélite, alors on ne peut pas parler du temple, on ne peut pas, c'est bien avant ça. Alors il dit, « As-tu vu mon serviteur Job? » Il n'a pas dit, il a amené 1000 personnes avec lui, non. Il dit, « As-tu vu mon serviteur? » C'est quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui est fidèle. Et Dieu le montre à tout le monde qui est là, aux mauvais anges puis aux bons anges. C'est vraiment profond, Job. Puis Dieu dit, « Regarde mon serviteur. » Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est intègre. C'est un homme qui parle de Dieu. Et Dieu, ça lui plaît. Mais il ne regarde pas le nombre de personnes. Alors, c'est la même chose. C'est la même chose que c'est la même chose qu'on peut vivre présentement. La croissance va dépendre de nous. C'est certain, il faut être à l'œuvre, il faut être ici, malgré que c'est pas tout le temps facile, il faut être ici. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver à la fin. On ne sait pas, on ne connaît pas la récolte. Alors, il faut faire comme Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître, et aller par la foi. Et après ça, on va voir le Seigneur agir. Comme dans l'Église, dans l'Acte des Apôtres. Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il y a une saison pour la récolte, il y a une saison. À un moment donné, il va y avoir une saison. Mais il faut planter, il faut semer, parce que la vie est courte. La Bible dit que la vie ne dure pas plus longtemps que l'herbe qui apparaît ou la fleur qui pousse et qui va tomber. Alors, la vie, c'est très, très vite. Alors, il faut être à l'œuvre, il faut commencer l'œuvre le plus tôt possible, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Et la Bible dit travailler pendant qu'il fait jour. Parce qu'à un moment donné, il va faire noir. On ne pourra plus travailler. La Bible dit qu'il va avoir, à un moment donné, il va avoir une noirceur. Alors, c'est le travail, c'est ce que je voulais vous dire ce matin, les étapes. Et nous sommes dans cette étape-là de planter. Présentement, nous plantons. Tenez, comme c'est l'hiver, on a le temps peut-être... on a, je disais, si on avait le temps basané, là, on aurait peut-être des carottes. Mais comme on a le temps pâle, on va peut-être récolter de la salade, mais c'est pas grave. Mais là, présentement, on est en train de planter. Alors, on ne peut pas avoir la récolte immédiatement. Alors, si vous... Fait que ce que je voulais vous montrer ce matin, c'est comme un jardin. Quand on plante au printemps, on n'est pas rendu à la fin de l'été, là. On est au printemps. Alors, il ne faut pas s'attendre qu'on va manger de la salade immédiatement, là. Par contre, quand on la mange, elle est bonne. Tellement bonne. Surtout les légumes du Québec, quand on mange, quand on les... C'est vraiment bon. Les fruits, les légumes du Québec, c'est la même chose pour l'Église. On est dans un temps qu'on sème, qu'on plante. La récolte, je ne sais pas quand. C'est pas ça qui est important. Le Seigneur le voit, il va nous donner une récolte en sa saison. Amen. Alors, on va prier.